Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 25 juin. C'est la dernière semaine avant l'été, nos vacances et vos programmes spécifiques de France Culture. Toute l'équipe du réveil culturel est en forme. Elle vous souhaite d'ailleurs une excellente semaine. Toute l'équipe, c'est-à-dire Vincent Abouchard à la réalisation, Eric Boisset à la technique et Anaïs Isbert à la coordination. Et aujourd'hui, je suis bien entouré. Hélène Lee et Auriane Jeancourt. Auriane Jeancourt du magazine Transfuge viendra en fin d'émission nous parler de ses coups de cœur littéraire pour cet été. Mais tout d'abord, notre invitée, Hélène Lee, spécialiste de la Jamaïque, qui a enquêté sur la première communauté des Rastas qui se sont installés au début des années 40 dans un très vaste domaine, le Pinacle. C'est un point culminant de la Jamaïque, un fouillis de collines et de vallées, de falaises et de cavernes, un état dans l'état colonial, une expérience écolo-politique révolutionnaire avant l'heure où des milliers de descendants d'esclaves africains vont réapprendre la fierté noire et l'autosuffisance sous la bannière rouge, jaune et verte de Rastafari. Cette communauté se creusait de la culture Rasta et l'idée d'un certain Léonard Percival Hoël. En plus de l'enquête sur le Pinacle, Hélène Lee fait parler le fils de son fondateur, donc Bill Hoël, dans un passionnant ouvrage édité par Afromundi, Pinacle, le paradis perdu des Rastas.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et quel livre ? Bonjour Hélène Lee.
Bonjour Toufik.
Le Pinacle, le paradis perdu des Rastas. Alors c'est très étrange, je disais que c'était la dernière semaine pour le réveil culturel. Et on a commencé la saison par un autre livre. C'était le roman de Célia Oudard, mais qui s'inspirait sur des faits réels et sur une autre communauté, celle de Mante Virita. On est dans le Tessin, hein, dans la Suisse italienne, ou à la fin du 19e siècle. Parce que l'Europe était secouée par l'arrivée de l'industrialisation, des gens vont aimer quitter cette modernité pour se réunir et en réponse à l'urbanisation engendrée par cette nouvelle organisation du travail, ils ont imposé une vie à l'écart de tout ça, très proche de la nature. C'est là où apparaît le naturisme. Il y avait aussi les adeptes du végétarisme, du spiritisme, des médecines naturelles, de l'hygiénisme, ainsi que des artistes. Ce n'est pas la même chose qui se passe en Jamaïque dans les années 40 avec le Pinacle. Il y avait d'abord cet arrière-fond politique.
Ils sortaient tout juste de l'esclavage, en fait. Ils avaient, et en plus, il y avait la guerre de 14. Il y avait une immigration épouvantable parce que les gens n'avaient plus rien pour vivre. Les anciens esclaves, ils avaient droit à rien du tout. Et donc, ils se retrouvaient jetés sur les routes et il fallait bien qu'ils s'installent quelque part. Donc, bien que le contexte ait été vraiment celui de l'Italie à la fin du siècle...
C'est-à-dire proposer autre chose à ce qu'elle nous impose.
C'est quand même l'époque des grandes utopies, justement. L'Adère d'Éder, on va plus se battre, peace and love, tout ça est en train de... Gandhi, c'est quand même l'époque où on se dit quand même on peut mieux faire que ce qui vient de se passer.
Un autre monde est possible, quoi.
Voilà, un autre monde est possible, absolument. Et donc, eux, leur problème, c'était avant tout d'avoir un endroit pour se poser. Ils avaient peur de rien. Ils avaient vécu avec rien pendant 400 ans, avec ces histoires d'esclavage où ils avaient un jour par semaine pour cultiver leur jardin et se nourrir. Faut se rendre compte de ce que c'était la vie pour eux. Donc, d'un seul coup, ils avaient toute la journée, tous les jours, pour cultiver leur jardin et manger. Déjà, ça, c'était extraordinaire. Ils avaient plus la police sur le dos, ils avaient un coin à eux, ils pouvaient se construire une maison, ils s'y mettaient à tous. En deux jours, ils avaient une nouvelle baraque. Donc, tout le monde venait se réfugier là parce que c'était la première fois depuis les années 1840 et l'émancipation, c'était la première fois qu'ils revivaient comme des êtres humains capables de prendre des décisions et de mener leur vie comme ils le désiraient.
Est-ce que la philosophie Rasta ou la culture Rasta, vous nous direz quel est le mot le plus approprié, Hélène, est née au Pinacle, dans cet endroit-là? Mais avant de répondre à cette question, je tiens juste à signaler que vous écrivez l'histoire du Pinacle avec les mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une ZAD.
C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. De toute façon, les idées de Leonard Howell étaient des idées hyper modernes. Leonard Howell, c'était un voyageur. C'était quelqu'un qui avait passé 20 ans sur les mers du monde.
Lui qui va créer cet endroit.
Voilà. Et c'est donc, quand il arrive pour créer cet endroit, déjà, il est au courant de toutes les théories de l'époque. Il est au courant de la mondialisation. Il a participé à la mondialisation.
Il était même victime de la mondialisation.
Et victime aussi. Donc, il arrive avec, il a été en contact avec les idées de Gandhi, il a été en contact avec le marxisme, il a été en contact avec les premiers mouvements noirs, décolonisation, etc., avec la première grande réunion noire en 1900, avec Marcus Garvey, évidemment. Si on ne cite pas que Marcus Garvey, je vais me faire tuer, parce que Marcus Garvey, c'est quand même quelqu'un qui a réuni des millions de noirs pour la première fois dans un mouvement anticolonialiste et qui a poser les bases de la rédemption noire. Donc tout ça est arrivé au pinacle en vrac, et les gens qui sont arrivés là étaient influencés par toutes ces pensées différentes aussi. Donc c'était vraiment un creuset de discussion, un creuset d'invention d'une nouvelle façon de penser, etc.
Et de vivre, et de se nourrir, et de s'éduquer, même s'il n'y avait pas d'école, il y avait une autre forme d'éducation. Au pinacle, ça vous le dit très bien, Hélène Lee, dans le paradis perdu des Rastas, mais c'est d'abord cette communauté, c'est une communauté qui voulait résister à l'ordre colonial.
Bien sûr, pour l'existence même des Noirs à cette époque, c'est une existence de résistance, parce que le moindre endroit où ils s'installent, on leur dit qu'ils sont pas chez eux. De toute façon. Alors, chez eux, c'est où? C'est en Afrique. Comment ils vont rentrer là-bas? Donc, de toute façon, ils sont en résistance contre le régime. Et puis, ils se rendent bien compte que toutes les solutions qu'on leur propose à l'intérieur du système valent pas mieux que l'esclavage. Donc, forcément, ils sont en résistance. Mais en même temps, leur idée, c'est que on n'essaie pas de faire la guerre au système babylonien, comme ils l'appellent. Il faut avant tout s'organiser entre nous, cesser de se bagarrer entre frères, cesser de créer des problèmes pour rien, juste trouver un lopin de terre. Là, ils trouvent un lopin de terre de quand même plusieurs centaines d'hectares, c'est pas mal, et puis dans un endroit absolument merveilleux. Et là, on va se reconstruire entre nous. On pourra plus se plaindre que ces trucs, machin ou autre chose, et on n'aura plus besoin de se battre, on sera entre nous. Donc l'idée, c'est juste de protéger les êtres humains pour qu'ils puissent vivre comme ils en ont envie. Et il dit quelque part dans le livre que le pinacle, s'il a servi au moins à une chose, c'est à prouver que lorsque les êtres humains sont laissés en paix à vivre selon leur propre volonté, à s'organiser par eux-mêmes, ils savent très bien se gouverner eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'État, ils n'ont pas besoin de leader.
Voilà. Est-ce que c'est le creuset du rastafarisme, le pinacle, Ellen Lee?
Bien sûr, mais il faut se rendre compte que comme c'est une pensée sans dogme, c'est une pensée hyper ouverte, avec toutes sortes d'éléments. Et donc, par la suite, il y a eu plein d'autres personnes qui se sont leaders, qui se sont réclamées du mouvement Rasta, mais qui n'ont pas les mêmes théories. Donc, c'est pour ça qu'on s'est servi des plus ridicules et des plus outrageants pour déconsidérer le mouvement et faire en sorte que personne s'y intéresse. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on veut faire un livre ou un film sur le mouvement Rasta, on vous traite de rigolo, parce que pour eux, ça n'existe pas. Ce mouvement a été vraiment ridiculisé, et on s'est servi de tous les clowns, comme il y en a dans tous les mouvements, il y a des clowns et il y a des gens extrémistes, et on s'est servi de ces gens-là pour déconsidérer le mouvement. Alors que cette base de liberté de pensée, je trouve, est merveilleuse. Si on n'est pas libre de penser et de faire ses choix soi-même, à quoi ça sert de penser?
Alors, c'est avec les souvenirs du fils d'Howell, hein, avec Bill Howell, que vous avez écrit ce livre « Pinacle, le paradis perdu des Rastas », Ellen Lee, chez Afro Mondi. Vous racontez à quel point les premiers adeptes étaient très mal vus, y compris par les villageois, hein, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Hein.
Ils n'étaient pas les bienvenus parce que les villageois s'étaient appropriés cet immense domaine de plusieurs centaines d'hectares que eux ont acheté. Mais les villageois, ils ne savaient pas qu'ils l'avaient acheté. Pour eux, c'était des terres de la couronne, chacun faisait ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que quand on a vu arriver ces gens qui se prétendaient être chez eux et qui chassaient les gens qui venaient couper le bois, les gens qui venaient ramasser les fruits, ça s'est mal passé. Mais en fait, les 15 premières années se sont passées à peu près tranquillement, parce que dès que les gens ont compris que ces Rastas, c'était pas des mauvais gars et qu'ils étaient pas là pour pirater, mais que juste ils avaient acheté le terrain, donc ils avaient le droit d'être là. Et en plus, ils dégageaient quelque chose. C'était des gens qui dégageaient un sentiment de paix, de sérénité, d'amitié. Ils s'appelaient frères entre eux. Ils ont bien vu.
Mais c'était quoi l'idée de Léonard Percival Howell avec cette communauté? C'était quoi son idée, son but?
C'était juste de donner une terre aux gens où ils seraient à l'abri du système colonial pour pouvoir vivre comme ils le voulaient. Point. Il n'avait pas de dogme, il n'avait pas de grande théorie. Il écoutait tout le monde, il savait ce que Marx pensait de la chose, il savait ce que les hindous pensaient de la chose. Mais tout ce qu'il voulait, c'est mettre les gens à l'abri, leur dire maintenant vous êtes libres, construisez-vous et soyons libres, beaux, dignes et noirs.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Oh. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right and do it night shall be spanked with many stripes, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, do right, do right, do right, do right, do right. Do right, do right, do right, do right, do right, do right. I beg you, oh, tell you to do right.
Le paradis perdu des Rastas, c'est un ouvrage d'Ellen Lee qui interviewe Bill Howell, c'est-à-dire le fils de Léonard Percival Howell, le créateur de cette première communauté de Rastas. Là, on vient d'écouter plutôt Burning Spear et qui parle de Marcus Garvey, parce que c'est vrai que c'est plutôt Marcus Garvey qui est considéré comme l'ancêtre de ce grand mouvement popularisé ensuite par Bob Marley.
Oui, sauf que Garvey et Howell se connaissaient très bien et ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient d'accord sur le principe qu'il fallait rendre justice à l'homme noir et lui rendre sa place dans le monde. Et ça, bon, ils se sont battus tous les deux pour ça. Mais Garvey était plutôt pour l'Afrique. Il fallait qu'on retourne en Afrique. Il fallait qu'on soit puissant en tant qu'Africain, en tant que noir. Il fallait qu'il y ait un capitalisme noir qui soit puissant, qu'il y ait des armées noires, qu'il y ait un chef d'État noir. C'était ça, c'était le... Alors que Howell, il avait dépassé cette idée de race, et lui, ce qu'il voulait, c'est que les gens choisissent. Il n'avait pas de dogme sur la façon dont il fallait vivre. Il voulait que les gens puissent aient la liberté de choisir comment ils vivaient.
Il y avait plusieurs religions, d'ailleurs, vous le dites, dans cette première communauté de Rasta, le pinacle, donc, pour parler de ce lieu. Ellen Lee, vous insistez aussi sur le fait que il y avait quand même une éducation politique. Hein, je veux dire que ces soirées où tous ces gens-là se retrouvaient pour lire la presse ou se faire lire la presse pour ceux qui ne savaient pas lire, et de commenter des informations locales mais internationales, on voit bien que l'idée quand même d'Howell, c'était aussi de politiser cette communauté.
En fait, c'était pas juste son idée, parce qu'il faut voir que au début, quand ils ont créé le mouvement, il y a eu dès la première année, il y avait 1100 personnes qui sont allées habiter au Pinacle. C'était beaucoup.
Ça fait le début
et
de 1940. Hein.
1940. Et 1100 personnes. Après, il y en a eu jusqu'à 3000. Mais bon, ces 1100 personnes dedans, il y avait un petit groupe pur et dur de gens qui avaient voyagé, qui avaient été à Panama, qui avaient fait la guerre de 14, qui avaient été sur les bateaux, qui connaissaient l'Europe ou même parfois l'Afrique. Donc tous ces gens-là était très politisé, parce que sur les bateaux c'était vraiment un nid de rebelles et de voyageurs. Donc tous ces gens se sont retrouvés au Pinacle parce qu'au moins ils pouvaient continuer à vivre à leur manière et à penser à leur manière. Et par contre, le reste de la population, c'était en majorité des femmes, parce que les femmes étaient celles qui souffraient le plus de la situation coloniale, parce qu'elles étaient responsables des enfants et que personne ne les aidait. C'était vraiment terrible pour elles. Donc, entre ce petit noyau dur de militants et de voyageurs et ce milieu extrêmement féminisé du fait de la situation sociale, c'est ça qui a fait quelque chose de détonnant, c'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de lire les journaux et de discuter politique sont arrivés avec leurs idées et leurs journaux, et le soir, quand ils lisaient les journaux, il y avait des gens que ça intéressait, qui pouvaient pas lire parce qu'ils étaient analphabètes, et qui donc leur demandaient de lire ce qu'il y avait sur l'Afrique ou ce qu'il y avait sur les mouvements de colonisation ou la lutte contre la colonisation ailleurs, etc. Donc, tout le monde profitait de cette université sous les arbres, et les soirées se terminaient comme ça, par des grosses discussions sur le dernier article politique ou
alors africain. Cette histoire du Pinacle va s'achever dans la violence en 1954, ça sera carrément fini en 1957. Alors qu'est-ce qui dérangeait dans cette communauté? Est-ce que ce sont les idées politiques? Est-ce que c'est une manière aussi d'affirmer une culture noire? C'est le rapport qu'entretenait cette communauté avec la nature, avec l'autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce qui mettait en péril l'ordre colonial?
Des gens qui prétendent qu'ils ont besoin de personne et qui peuvent très bien se diriger par eux-mêmes. C'est toujours, il y a aucune société qui trouve ça très sympathique, parce que la police n'était pas autorisée à entrer au Pinacle, ou bien bon, quand ils insistaient beaucoup, on était obligé de les laisser rentrer au compte-goutte. Mais en fait, si vous voulez vraiment pénétrer jusque au cœur du Pinacle et là où habitait O.L., il fallait qu'ils soient très polis, qu'ils prennent un profil bas. Et en échange de quoi, O.L. leur donnait une petite enveloppe, parce que c'est aussi comme ça que O.L. arrivait à garder la police locale tranquille. C'est au niveau de l'État qu'il faisait peur. On a même vu des lettres de Vernon Kell, qui est le fondateur du MI5, du service secret anglais. Le fondateur s'appelle Vernon Kell, et c'est lui qui, le premier, s'est fait les dents sur les Rastas, justement, parce qu'il avait découvert que c'était des gens qui recevaient des livres de George Padmore, qui était marxiste, qui recevaient de l'information des marins, qui discutaient des questions vraiment politiques de la colonisation et du droit des Anglais à être en Jamaïque ou à être en Afrique, etc. Tout ça, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc, on s'est servi du fait qu'ils étaient pauvres, du fait qu'ils étaient noirs, parce que déjà ça, en Jamaïque, ça permet de traiter les gens un peu par le mépris. Ensuite, ils croyaient en un dieu noir. Alors là, au secours, Haïlé Sélassié transformé en dieu, c'était carrément une raison de se moquer d'eux. Et puis ensuite, on disait qu'ils étaient sales. Il y avait une réputation des Rastas d'être sales, parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Le Pinacle n'a pas eu l'eau courante et n'a toujours pas aujourd'hui l'eau courante, alors que c'est à quelques kilomètres de l'ancienne capitale de Jamaïque.
Est-ce qu'elle est connue, cette histoire, Hélène Lee? Est-ce qu'aujourd'hui, en Jamaïque, on connaît l'histoire du Pinacle, le paradis perdu des Rastas?
On l'avait totalement oublié. Moi, je suis allée chercher le Pinacle en stop, en demandant à droite, à gauche. Des gens m'amenaient à droite, m'amenaient à gauche, jusqu'à ce que, enfin, je trouve quelqu'un qui savait vaguement sur quelle colline c'était. Mais c'était totalement oublié. La première fois que j'ai voulu monter en haut du Pinacle, il a fallu que quelqu'un m'ouvre la route à la machette. Alors que maintenant, depuis que mon premier livre, Le Premier Asta, est sorti, qui était la première biographie de Leonard Howell, les choses ont complètement changé. Et c'est pour ça que le fils de Howell, qui voulait plus entendre parler de l'histoire de son père et de son enfance, et de ce paradis perdu que pour lui était le Pinacle, il a vu que les choses changeaient, qu'on l'invitait à travers le monde pour représenter le mouvement, pour raconter l'histoire du Pinacle, on l'a invité en Afrique. Et donc, c'est lui, enfin, qui a décidé d'écrire ses mémoires, et c'est pour ça qu'est sorti ce journal. Mais l'université, jusque-là, n'avait voulu entendre parler de rien. Il n'avait publié que des âneries sur ce mouvement. Des grands professeurs d'université n'avaient même pas pris la peine d'aller interviewer Leonard Howell qui habitait en bas de la rue.
In 1939, the Honorable Leonard Howell founded Jamaica's first self-sufficient agro-industrial community in the hills of St. Catherine. At Pinnacle, thousands of rastas came together in an economic activity never before known outside of forced enslavement in Jamaica.
Pinnacle, ça se dit comme ça donc en jamaïcain.
Pinnacle, yes.
Ouais, le Pinnacle, le paradis perdu des Rastas, bah, vous voyez maintenant aujourd'hui, on en parle dans les chansons reggae du Pinnacle.
Oui,
enfin.
Il y a au moins 3 chansons qui sont sorties sur le Pinnacle et voilà. C'est bien.
Et dans votre livre des documents exceptionnels, vous avez même enquêté sur Howell aux États-Unis. Hein. Howell qui était vraiment pris par la machine capitaliste, qui a beaucoup travaillé avant d'être expulsé. Et vous faites parler son fils dans ce livre, je rappelle, édité par Afro Mundi. Bonjour Auriane Jeancourt.
Bonjour Tofik.
Alors si j'ai bien compris, cet été vous n'irez pas en Jamaïque.
Ah, j'aurais aimé.
Mais plutôt à Avignon.
Oui,
si
oui, oui.
De votre magazine Transfuge.
Oui, absolument, puisque Olivier Py est en une pour cette très belle pièce qu'il va présenter à Avignon, Pur Présent, qui nous fait rêver d'utopie, puisque je vous écoutais avec grand intérêt, puisque c'est une pièce sur la prison. Vous savez qu'Olivier Py a beaucoup travaillé en prison, comme un certain nombre de grands dramaturges, comme Joël Pomerac, par exemple. Et donc, de cette expérience, il a écrit cette pièce inspirée d'Eschyle, où des prisonniers entre eux parlent, évoquent la possibilité de la liberté, la possibilité de la foi. On retrouve là Olivier Py, le drame de l'existence. On retrouve aussi cette âme claudélienne qu'il a, puisque au même moment d'ailleurs il sort un livre sur Claudel. Donc voilà, donc on a fait un grand entretien où on a parlé de ça, on a parlé de la société d'aujourd'hui, de la prison, de Claudel. Voilà.
Et votre conseil littéraire pour cet été, Auriane Jeancourt?
Alors écoutez, je suis très heureuse d'en dire le titre, parce que vous allez voir que le titre résume le livre et ne le résume pas du tout. Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction armée rouge au cours de l'été 1969.
Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction armée rouge au cours de l'été 1969.
Voilà, c'est signé Frank Witzel. Ça a eu le grand prix allemand de Deutsche Buchpreis il y a 2 ans.
Ça raconte quoi?
Eh ben, ça raconte ce qu'il y a dans le titre. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui a 14 ans en 1969, qui est considéré comme fragile, peut-être maniaco-dépressif par une société allemande qui est encore très verrouillée, très paternaliste, même un peu traversée par les ombres et les spectres des nazis qui n'ont pas totalement disparu en 1969 en RFA. Et donc, ce jeune homme que tout le monde trouve fou, eh bien, lui n'est pas si fou que ça, puisqu'il est traversé par l'actualité et en l'occurrence par les attentats terroristes de la fraction armée rouge. C'est d'une construction folle, ça change sans cesse de forme, c'est un journal, c'est une pièce de théâtre, c'est un roman, c'est un poème. Frank Witzel a passé 10 ans à écrire ce livre-là, ça s'inscrit dans les grands livres postmodernes, à la Bolaño, à la Foster Wallace, il est très proche d'un Foster Wallace. Il nous dit ce qu'était l'Allemagne, mais aussi un certain esprit européen en 1969, donc juste après 68, à l'heure d'une certaine transition.
Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction armée rouge au cours de l'été 1969, c'est bien ça?
Exactement.
Et c'est édité par
Grasset.
Merci beaucoup, Auriane Jeancourt. Vous avez un conseil de lecture ou de musique à nous faire, Hélène Lee, avant de nous quitter? Vous lisez quoi en ce moment?
Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis un livre sur les Bogomils. Je ne pense pas que ça intéresse énormément de gens de nos jours.
Ça va être le prochain livre d'Hélène Lee. C'est quoi les Bogomils?
Les Bogomils, c'est les précurseurs des albigeois et et des cathares. C'est des gens qui avaient, pour la première fois, décidé que on n'était pas obligé de croire ce que l'Église nous racontait et qu'on pouvait peut-être réfléchir un peu à comment la création était arrivée, etc. Et ils ont des idées complètement différentes de ce dont on a l'habitude.
Tout un programme. Merci, merci Hélène Lee. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pinacle, le paradis perdu des Rastas chez Afromondi. Et merci à Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonne matinée sur France Culture.